Bon, alors j'avais intitulé l'exposé « Les émotions collectives doivent-elles rester suspectes ?» Alors, émotions collectives, il se trouve que c'est un enjeu noué depuis au moins les travaux de Gustave Le Bon à la notion de foule. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était à travers cette question des émotions collectives, d'approcher cette notion de foule dans la ville et d'une manière plus générale dans un premier temps. Il se trouve, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais historienne de la Révolution française, et la foule telle qu'elle est théorisée par Gustave Le Bon est immédiatement reliée à la question de la Révolution française, parce que pour faire ces théories de la foule, qui sont des théories qui donnent une image très négative de la foule, en fait, il emprunte à un historien de la Révolution française qui a une vision très effrayante de la Révolution française, qui est Hippolyte Taine, et qui décrit une foule qui serait le lieu par excellence de l'ivresse, ivresse sur laquelle on pourrait revenir un tout petit peu plus tard, et comme finalement le lieu de la dissolution de l'humanité, si on le cite, comme sur un radeau sans vivre, l'homme perd dans la foule le mince tissu d'habitudes et d'idées raisonnables dans lequel la civilisation l'enveloppait. Prenez des hommes qui ont bu, mettez-en 1000 ensemble, laissent leurs cris par l'attente, par la contagion mutuelle de leurs émotions croissantes. Au bout de quelques heures, vous n'aurez plus qu'une cohue de quelques fous dangereux. Mmh. Bon, ça a l'air de vous faire rire, mais cet imaginaire de la foule, et donc la foule comme objet haïssable, et les émotions qui traversent la foule donc également comme objet haïssable, c'est une représentation qui traverse les temps et qui, évidemment, existe encore aujourd'hui. Et qui a été fondée sur, finalement, l'effroi rétrospectif d'un moment éminemment politique au sens de la survivance, de la convivance, et qui, donc, peut, du coup, permettre d'analyser en partie ce qui se passe aujourd'hui. Il se trouve que, suite aux travaux de Gustave Le Bon, il y a un troisième larron qui arrive dans la danse, qui est Sigmund Freud, qui, lui, quand il fait sa théorie de la foule, eh bien, utilise d'une manière très importante Gustave Le Bon. Je ne sais pas s'il a une conscience claire que Gustave Le Bon travaille sur la Révolution française, mais en tout cas, il utilise Gustave Le Bon de manière très précise. Et il propose une analyse de la foule en termes d'imago et de circulation du sentiment amoureux. Et donc, l'émotion qui habiterait la foule, c'est le sentiment amoureux pour cet imago. Imago qui serait celle de chacun dans un rapport vertical, et imago partagé donc par chacun, qui produit un lien également horizontal. Et donc cette ivresse qui est absolument détestée par Hippolyte Taine, et il parle de la foule comme d'un individu qui est ivre, cette ivresse, ça serait l'ivresse amoureuse. Bon. Donc il y a là quelque chose qui a conduit à rejeter l'idée même d'émotions collectives. Deuxième élément qui a permis de rejeter les émotions collectives, c'est le travail dans les années 30 par Walter Benjamin sur l'esthétisation de la politique et le fait qu'on ait considéré que les émotions collectives, elles advenaient justement dans un contexte où on les manipulait et où on manipulait ainsi les masses pour les faire agir d'une certaine manière. Donc quand je pose la question, les émotions doivent-elles rester suspectes? En fait, c'est les foules doivent-elles rester suspectes? Et doit-on s'en tenir à cet imaginaire produit à la fois par Taine, Le Bon et dans une certaine mesure Freud, et puis ensuite Walter Benjamin? Je dis dans une certaine mesure Freud parce que chez Freud, il y a certes tout cet appareil noué à la foule négative et au fait qu'on considère que dans ce lien amoureux, le surmoi disparaît et que c'est pour cette raison que Hippolyte Taine peut affirmer qu'il n'y a plus que l'instinct alarmé et le caractère animal. Mais il dit également que dans un contexte de foule, les foules peuvent soit avoir moins d'éthique, soit avoir plus d'éthique. Et donc, il y a une ambivalence de la foule et qu'il y aurait donc un processus double, soit de civilisation par la foule, soit au contraire de décivilisation par la foule. Et donc c'est autour de cette ambivalence, je crois, qu'il y a la possibilité de revenir sur cette question des foules. Deuxième point, je voulais insister sur le fait que la foule est devenue un objet d'histoire très important et que autour de cet objet d'histoire, en fait, ce qui a été analysé, c'est la possibilité de revenir sur ces théories, en particulier, je pense à un historien classique de la Révolution française, Georges Lefebvre, qui travaille en même temps, dans la même période historique que Freud, et qui se pose donc les mêmes questions. Est-ce que les masses sont manipulables par les émotions? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et en fait, il essaye de mettre en place une foule qui ne serait pas manipulable par les émotions, mais qui, par contre, aurait, serait porteuse, d'une part, inintentionnelle de sa décision, mais qui serait apte à décider en fonction de l'expérience qu'elle peut avoir d'un type de configuration, d'un type d'événement. Et c'est ça qu'il va appeler la mentalité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la ville? Ça veut dire que une foule dans une ville, elle n'existe dans sa qualité qu'en fonction des expériences qu'elle a déjà eues de la ville. Et qu'il y a une stratification de ces différentes expériences et que cette expérience, elle peut être aujourd'hui assez variée. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas mes objets, mais on peut imaginer la contrainte trop de monde parce que trop de monde dans le métro ou trop de monde dans un centre commercial. On peut imaginer à nouveau la question de la menace telle qu'elle a été décrite par, Lebon et puis par Hippolyte d'abord et puis Hippolyte Taine d'abord, puis Lebon, etc. Et puis, ça peut être l'imaginaire ou l'expérience de la jouissance au moment où on est dans un espace public pour écouter un concert, pour se balader, pour manifester, et où on est dans cette expérience amoureuse d'un partage, d'un projet, d'une revendication. Et il se trouve que c'est autour de cette question de la jouissance positive, entre guillemets, que toute une série de politiques publiques de la foule se sont mises en place. Je dis politique publique de la foule, peut-être avec des guillemets autour de foule, mais il se trouve que les musées proposent des balades urbaines, que si on est à Lyon, eh bien, un des grands temps forts, en tout cas, qui a été un des grands temps forts de la ville, c'est le défilé de la Biennale de la Danse. Qu'est-ce que c'est que le défilé de la Biennale de la Danse? Et donc d'observer que cette question de la foule, en fait, a habité les politiques publiques, paradoxalement sur le côté positif quand il s'agissait de politique culturelle, mais que par contre ça continue à être la foule relativement haïssable quand il s'agit de politique au sens strict du terme, de politique politique. Voilà. Alors pour finir, parce que je crois qu'il me reste combien de temps il me reste là?
Encore un peu.
J'avais commencé à...
Bon.
Je voulais évoquer justement cette Biennale de la Danse qui est le plus souvent extrêmement loué par à la fois les personnes qui l'organisent, et je dirais que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Si on analyse les discours de Barre ou les discours de Colomb, ce sont les mêmes discours. Et le discours, en l'occurrence, de cette Biennale de la Danse, c'est un discours qui consiste à dire « ça permet de vivre ensemble ». Voilà. La Biennale de la Danse donne la possibilité de faire vivre tout le monde ensemble lors d'un événement rituel, puisque les gens des quartiers, comme on disait, puis des zones sensibles, puis etc., sont conviés à présenter une chorégraphie dans un défilé assez important, et ils le font devant d'autres Lyonnais, ou gens de l'agglomération lyonnaise, qui sont en position de spectateurs. Or, les gens qui font, qui dansent finalement dans cette biennale et qui sont des gens ordinaires mais qui ont préparé longuement, appartiennent à des zones du territoire qui ne sont pas les mêmes que ceux qui regardent. Et donc, il y a quelque chose là d'un partage des tâches et d'une spécification qui est rarement analysée. Qui est rarement analysé et qui quand même pose des questions à ceux même qui dansent. Parce que quand il y a eu une analyse assez fine et une enquête assez longue auprès de ces acteurs, de ceux qui dansent, hein, donc des gens des banlieues ou des gens des quartiers qui sont conviés, et qui ont une expérience très ambivalente de la biennale, hein, c'est-à-dire que d'un côté c'est quelque chose de relativement enthousiasmant parce qu'il y a une grande préparation en amont, que cette préparation en amont crée au niveau local de cette préparation une sociabilité qui sinon n'existe pas si facilement, et donc il y a une relative réussite de la politique publique de la ville de ce point de vue-là, mais qu'ils ont le sentiment que le défilé en tant que tel, c'est un point d'acmé et qu'ensuite il y a une chute et qu'il n'y a pas de débouché et que ça ne change finalement pas grand-chose, mais que ça a été l'occasion de se manifester, d'être là, de se montrer et que de ce point de vue-là, se manifester, être là, être respecté momentanément par ses spectateurs qui trouvent quand même qu'on a bien travaillé, c'est quelque chose qui est satisfaisant, mais il y a un sentiment d'insatisfaction parce qu'il n'y a pas de vrai débouché politique. Il n'y a pas de transformation des places. Et si on reprend la question de Rancière sur le partage du sensible, eh bien, ça n'a rien déplacé sur le partage de la communauté puisqu'il y a bien une séparation entre les spectateurs et les acteurs et entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui ne prennent pas de décision. Je pense qu'il y a encore possibilité d'aller un tout petit peu plus loin parce qu'il se trouve que la danse, c'est quelque chose qui n'est pas anodin comme type d'art et qui est un art du corps. C'est le corps dansant qui est là présenté à la ville et il y a un effort physique très intense qui est vraiment vécu d'une manière forte avec l'idée de se donner d'une manière très intense pour ceux qui le font et qui finalement sont dans une dépense du corps sans pouvoir formuler très précisément une parole qui serait une parole politique. Et il y a des énoncés, je sais pas si j'ai pas vraiment le temps de les rechercher très précisément là, mais où finalement il y a l'idée qu'il faut se présenter presque dans une forme animale. Et donc le danseur doit finalement adopter quelque chose qui serait de l'ordre de l'animalité, et on retrouve la question de Taine dans l'imaginaire qui est porté par les acteurs mêmes de la danse. Pourquoi j'avais envie de développer cet enjeu-là ? Parce que je pense que ces politiques publiques de la foule, j'ai parlé là de la Biennale de la danse de Lyon, mais on pourrait parler de des Nuits Blanches ou de la Fête de la musique, elles sont extrêmement ambivalentes sur justement cette foule qu'elle peut à la fois civiliser ou déciviliser, et sur le partage, le dit partage du sensible, et sur la capacité à déplacer les normes politiques à l'œuvre. Et à mon sens, elles ont plutôt tendance à produire des frustrations politiques assez intenses, parce qu'il y a une conscience intériorisée chez les acteurs qu'il y a bien quelque chose de politique qui se joue, mais l'impossibilité de passer réellement à de la politique, à supposer que la politique soit une prise de parole publique dans un premier temps, et la possibilité par cette parole publique de pouvoir transformer les rapports qui existent dans la décision qui se prend dans les lieux de pouvoir. Et c'est ça qui, ça s'arrête toujours en amont. Et il se trouve qu'à Lyon, eh bien, les rapports sociaux entre les différents quartiers est particulièrement, c'est particulièrement étanche entre les différents quartiers, entre les différents groupes sociaux. Il y a beaucoup de tribus, me semble-t-il, en tout cas dans ce que j'ai pu avoir comme expérience et aussi dans des travaux que j'ai pu lire sur Lyon. Et que c'est une des rares villes où le centre-ville a été investi au moment des émeutes de 2005 et où les vitres de la place Bellecour, qui était le lieu où arrivait cette fameuse Biennale de la danse dans les premiers parcours, ont été effectivement visées, alors que le centre et la périphérie n'ont pas été finalement subverties dans les autres émeutes. Tout ça pour dire qu'on retrouve dans cette question de la foule l'ambivalence de la politique publique et l'ambivalence de ses effets. Parce qu'on pourrait dire, dans ces cas-là, il aurait mieux fallu ne pas faire de biennale. Je crois qu'au contraire, ça permet de voir qu'à un moment donné, quand on s'arrête au niveau d'une politique publique, à l'orée du politique, eh bien le politique ressurgit, et peut-être d'une manière violente, mais qu'au moins ça a le mérite de pouvoir poser la question des rapports réels qui existent dans les partitions sociales entre centre et périphérie, et de montrer qu'une politique publique culturelle ne peut pas résoudre des problèmes de conflictualité sociale et que c'est uniquement par la prise en charge d'une conflictualité politique qu'on peut sortir de ce genre de questions ou qu'on peut en tout cas les poser. Voilà, je vais m'arrêter là.